Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 2 avril 2021. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 2, épisode 76. Les écoles sont de nouveau fermées, c'est le bazar, on a toujours des attestations et quand il y en a marre, bah il y a mal à barre. Bon, je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Coucou à tous, ici Adrien, accompagné de l'indéboulonnable Laetitia. Beaucoup ont essayé, personne n'a réussi. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de l'émission, des news simples et funky, des actualités du côté de chez nous, du côté de chez vous, et une nouvelle rubrique, le Café d'or. Et cette semaine, on va attribuer un Café d'or à quelqu'un ou à quelqu'une, ou à une ancienne, ou à une marque. On vous expliquera tout. Et on passera le mic à quelqu'un qu'on apprécie particulièrement. C'est Samson, qui est le big boss d'une agence qui est basée en Israël et qui va nous dépeindre la tech, l'univers Martech, l'univers e-commerce en Israël. Et puis, on terminera comme d'habitude avec des jeux en fin d'émission. Adrien ?
Laetitia ?
Prêt ?
Synchronisation des montres.
Les news simples et funky, toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine et qu'il ne faut pas louper pour briller en société. C'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Trustpilot voit sa valorisation estimée à 1,5 milliard de dollars à la bourse de Londres.
Zalando poursuit l'expansion de son programme Connected Retail en l'ouvrant enfin au marché français.
Lancement d'Octopia, nouvelle offre de marketplace de Cdiscount.
Globo lève 450 millions d'euros.
Clubhouse teste le Voice AI commerce sur certaines rooms.
Sensaterra, marketplace spécialisé de boissons chaudes, lève 1 million d'euros.
Google doit repasser ses tests pour le remplacement des cookies tiers avec les Flock et compagnie, car ce n'est pas encore compatible avec RGPD.
Et enfin, Deliveroo, qui est valorisé à 7,6 milliards de livres pour sa future IPO. Et la news what the fuck de la semaine, Adrien, qu'est-ce que c'est ?
Un Chinois qui génère 254 millions d'euros de ventes en une seule session de live shopping. Il ne vend pas que des smartphones, mais il a également vendu des shampoings et d'autres produits comme ça.
Eh bah, bravo l'ami.
T'as vendu autant, Laetitia, dans tes lives ?
Non, pas du tout. Tu peux diviser genre, par beaucoup.
Il a fait 12 heures de live. Donc,
ah ouais, c'est un marathon.
Donc bien vu.
What the fuck chez nous ? Et bah, cette semaine, on va vous parler de... Qu'est-ce que tu veux parler, toi ?
Bah, moi, je veux parler de ma vie. Je vais commencer. Et bah, qu'est-ce que je fais un jeudi soir ? Je regarde des webinars de marketplace par des éditeurs. Donc, j'ai passé mon jeudi soir à mater ça. C'était lié au lancement d'Octopia. Tu sais, on en avait parlé il y a quelques semaines que Cdiscount allait lancer sa marketplace en propre.
On avait rigolé pour
les vendeurs. Ouais, moi, j'étais plutôt sceptique, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, donc, le nom, ça s'appelle Octopia, ça je l'avais pas. Je pense qu'ils l'avaient communiqué déjà, mais j'avais pas vu passer ça. Ils l'ont lancé le 1er avril, donc on enregistre le 2 avril. Ils avaient fait il y a quelques semaines un webinar que j'avais pas, j'ai retrouvé hier, donc je l'ai regardé. Finalement, il répond à beaucoup de questions que j'avais, donc c'était intéressant. Et bien comme tu dois le savoir, moi je suis assez critique vis-à-vis des marketplaces. Je suis pas un anti marketplace, je m'en fiche complètement. C'est juste tout le bullshit autour de la marketplace, ça va te sauver la vie, ça va tout régler dans ton business. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Oui, il y a plein de bons côtés, mais il y a également on a tendance à peut-être réduire les côtés un petit peu plus négatifs. Et du coup, je me suis amusé dans le groupe WhatsApp. En plus, ça parlait, c'est pure coïncidence, ça parlait de marketplace. D'ailleurs, on est plus de 90, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est complètement gratuit. On parle d'e-commerce de manière complètement décomplexée. Et on parlait de marketplace. Il y avait pas mal de retours et la deuxième slide de la conférence ou du webinar auquel j'ai assisté, c'était une grande blague. Enfin, tu vois, c'est la marketplace qui t'explique que c'est un modèle qui est très vertueux, qui est positif et il n'y a que des avantages. Et je voulais faire un petit récap. Donc là, Laetitia, t'es prêt à mon petit monologue?
Ouais,
je sais
c'est
que
bon.
j'aime pas
c'est
ça.
C'est parti, je t'écoute.
Je vais faire encore un récap. Bon, ouais, tout le monde sait ce que c'est un des marketplaces, c'est pas vrai.
Les acteurs qui est là.
Ouais, ben en fait, je voulais juste le côté obscur. Je vais me remettre dans le champ, le côté obscur des marketplaces. Donc, vous allez sur Google, vous tapez marketplace, vous allez tout voir pourquoi c'est génial, c'est magnifique. Et je voulais juste prendre le contre-pied et dire. Et en plus, c'est presque le 1er avril, donc on peut se faire des blagues, on peut dire n'importe quoi. Et donc, je voulais essayer d'un petit peu d'expliquer en quoi c'est pas si si magnifique que ça. Et encore une fois, je suis pas anti. Il y a des situations dans lesquelles c'est super d'avoir des marketplaces. Il y a deux types de philosophie dans les marketplaces. La première, c'est le style Line Go, c'est tu vas balancer tes produits sur des sites tiers. Et d'ailleurs, quand tu parles aux gens, j'ai l'impression que, alors en dehors de le marketplace Amazon, c'est discount en B2C, on va dire la plupart des gens, pour eux, c'est ça. Quand je veux vendre sur une je veux faire de la marketplace, ils le voient comme un canal de vente supplémentaire et ils vont balancer leurs produits sur des sites tiers. Il y a plein d'avantages, mais les inconvénients, c'est un, tu vends, mais en fait, tu enrichis la marketplace au passage, et c'est surtout elle qui va bénéficier de ces ventes. T'as rien du tout. Littéralement, tu balances tes produits, mais en fait, tu dépends complètement de la marketplace, de la technologie, des process, des informations clients qu'elle voudra bien te partager. D'ailleurs, Amazon a changé des règles il y a quelques semaines pour donner encore moins de pertes d'informations aux vendeurs tiers. Et surtout, si la commission échange, tu l'as dans le baba. C'est les classiques qu'on voit sur Apple Store ou Google Store. Quand tu es dans un écosystème, tu es à la merci ou dépendant en tout cas. Donc, c'est bien de construire son business, mais attention à bien prendre conscience que tu es dépendant. Et enfin, quand tu vends sur une marketplace tierce, t'es pas du tout à l'abri de te faire copier. On en a vu plein des exemples, et Amazon a été sous le coup d'investigation devant les tribunaux l'année dernière pour avoir copié des produits, et on le sait, enfin ils se cachent à moitié. C'est une pratique qui existe, tu vends tes produits, mais une fois que ça commence à bien vendre, la marketplace elle se dit pourquoi pas prendre le produit, le développer moi-même en propre et le vendre et le proposer à mes clients. Et dans ce cas-là, tu l'as dans l'os. Moi je dirais c'est le côté positif de ce système-là, c'est pour tester à moindre coût. Tu peux tester des nouveaux marchés, tester des produits, tu peux faire des tests. Parce qu'en fait, l'alternative de la marketplace pour tester, c'est tu vas construire un mini-site, tu vas construire un nouveau site, soit en direct ou soit en délégation, et ça coûte cher, c'est long et c'est compliqué. Donc, il y a des situations dans lesquelles c'est vraiment cool. Je dirais juste, attention, c'est pas magique. Et le deuxième élément, c'est quand tu veux héberger ta propre marketplace, et là, on est dans le délire Iceberg, Miracle, etc. Héberger, donc construire ta propre marketplace, tu peux perdre ton focus, c'est-à-dire tes équipes de développement, elles vont devoir également manager un outil tiers qui va gérer une plateforme de marketplace, donc perte de focus. Tu as moins de marge parce qu'une vente qui vient au travers de tes vendeurs tiers, c'est pas la même chose que la vente en direct. Tout le monde, tu peux imaginer que si tu as un vendeur tiers qui vient sur ta marketplace pour vendre un produit, il le fait pareil sur d'autres sites. Donc, en quoi tu es différenciant? Alors, modulo, parfois des marketplaces verticalisées, on peut tempérer cet argument là, mais bon, si quelqu'un vient vendre chez toi, tu peux te dire aussi qu'il va vendre n'importe où, et tu contrôles pas tout le customer journey. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux contrôler une partie du process, mais que ça soit parfois le service après-vente ou juste la gestion des retours. Alors, tu peux mettre en place des garanties, ce genre de choses, mais c'est pas toi qui va contrôler la qualité du produit, par exemple, comment va être le produit. Donc, tu peux avoir des notes, tu peux a posteriori essayer de filtrer les mauvais vendeurs. En tout cas, tu contrôles pas entièrement le customer journey. Et c'est beaucoup plus difficile quand tu héberges une marketplace, quand tu as beaucoup de produits, de construire une fidélité, une loyauté autour d'une marque, parce que par définition, tu es moins en contrôle et c'est plus difficile. En gros, si tu es un gros acteur et que tu héberges ta marketplace, il y a plein d'avantages et c'est plutôt bien. Mais les plus petits acteurs, je me pose vraiment des questions et j'ai des doutes quand tu as la mise en place de sa propre marketplace. Il y a plein d'exceptions. Là, je voulais faire juste un petit récap. Mon conseil, c'est faites-vous accompagner. Trouvez une agence ou trouvez des personnes qui peuvent vous accompagner et définir correctement votre business model et votre stratégie. Laetitia, un commentaire?
Oui, est-ce que tu as des idées, tu as en tête des noms de marques qui ont quitté des marketplaces parce que tout ce que tu disais, on ne contrôle pas la visibilité, on ne contrôle pas la fidélité, on ne contrôle pas...
Complètement.
J'en ai en tête.
Oui, mais déjà les Nike et compagnie, c'est pour les contrefaçons. Oui. Mais il y a même Looney. Alors, ils ont dit success story, on s'est lancé sur Amazon, mais t'inquiète, quand ils ont commencé à faire des millions, on dit, tu sais quoi, on va le développer en propre. Et aujourd'hui, ils vendent en direct également.
Ouais, parce qu'on sait que Amazon aussi, c'est un peu un laboratoire. Enfin, je parle d'Amazon, mais en général, sur les marketplaces, lorsque vous arrivez, vous êtes un peu dans un laboratoire. Et si votre produit cartonne ou quoi, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue dans le groupe WhatsApp, bien évidemment qu'il y a des risques que ce produit soit copié
Pour résumer, moi, je dirais pour les tout petits, allez-y, parce que tu peux tester, tu peux lancer rapidement en mode Luni quand tu commençais. Tu vas avoir un trafic, tu as beaucoup de trafic sur ces marketplaces-là, donc balance tes produits là-bas, dans les flux. Hein. Pour les très gros, bah, c'est bien parce que tu vas pouvoir élargir encore plus ton catalogue. Et de toute façon, comme tu es déjà massif sur Google et en référencement naturel, ça peut t'amener beaucoup plus de catalogues et faire du cross-sell, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Et par contre, pour le mid-market, à voir. Mais je suis bon, à se poser des
questions.
Allez
sur Shopify, développez votre petit site et puis tout ira bien.
Et puis, je vais quoter Arnaud dans le chat. Mon Dieu, Flux Marketplace, c'est un bordel à gérer. Merci Arnaud, toujours le mot pour ça. Mais oui,
plus,
c'est très compliqué.
Moi, je viens d'avoir une expérience. J'ai aidé quelqu'un qui est dans le groupe aussi, qui s'appelle Fabrice, qui a décidé d'aller sur la marketplace Amazon. Et franchement, les règles, elles sont hyper strictes. En gros, quand on a uploadé son produit, son catalogue produit, Amazon estimait qu'on n'avait pas les meilleures fiches produits. Donc, du coup, le produit était moins bien ranké. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, voilà, il apparaissait pas en tête des références et des recherches, pardon. Et puis du coup, il fallait revoir l'ensemble des fiches produits et voir comment est-ce qu'on pouvait se différencier. Enfin, je dis on, mais comment Fabrice pouvait essayer de se différencier. Et c'est assez compliqué parce que de toute façon, l'algorithme favorisera toujours celui qui remplira tout parfaitement toutes les cases. Donc voilà.
Laetitia, toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Eh bien, écoutez, vous savez que j'adore être une testeuse et que je teste énormément de choses, énormément de sites. Cette semaine, j'ai été bêta-testeuse pour un média féministe qui décide de se réinventer. Adrien va me dire, mais quel rapport avec le e-commerce? Il y en a un énorme.
Je sais pas du tout comment tu m'imites. Je parle pas comme ça.
Moi, je te dis que tu parles comme ça. Il y a un lien énorme, c'est que justement, les médias, ils ont envie aussi un peu parfois d'être vers un modèle un peu marketplace, dans le sens où on va venir, on va chercher ce qu'on veut, que ce soit du contenu écrit, du contenu audio, que ce soit de la vidéo, et puis aussi des produits et des services. Et donc ce média-là recherchait des personnes, surtout féminines, qui étaient capables de partager leur expérience à la fois sur de l'expérience e-commerce et sur de l'expérience média. Donc c'était hyper intéressant.
C'est quoi les questions par exemple?
Les questions c'était pour vous, qu'est-ce qui est le plus important sur une homepage dès que vous arrivez sur un site de média? Qu'est-ce que vous préférez voir? Tout de suite des conseils, des articles, des produits, de l'affiliation, du placement de produits, voilà.
Mais ça s'adresse aux gens qui connaissent déjà l'e-commerce, parce que tu peux pas demander à un consommateur de répondre à ces questions aussi.
Oui, fallait quand même avoir une petite appétence e-commerce.
Oh, appétence.
Appétence, voilà, j'ai placé.
Tu as gagné quoi à le faire? Moi, c'est toujours reward.
J'ai gagné un moment très sympathique avec la personne avec laquelle je me suis
entretenue. Ah, c'est en live, en face-to-face? Ouais. Je pensais que c'était un formulaire.
Non, okay. Non, oui, j'ai oublié de préciser, c'était avec quelqu'un. Alors, du coup, on était sur Zoom. Et du coup, oui, c'était en live et voilà. Et c'était plutôt cool. La suite au prochain numéro, je ne sais pas quel format.
Ah si,
je connais, mais je
ne
sais pas.
Tu connais le média, mais tu sais ce qu'ils vont faire avec?
Pas encore, ils sont encore en pourparler. En fait, ils ont l'intention surtout de faire une app. Alors après, moi, je leur ai dit, attention, une app, ça prend de la place. Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Qu'est-ce que vous voulez y vendre? Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée forcément de télécharger l'app de ce magazine.
Alicia, breaking news, on a Mila Jovovich dans le chat. J'adore.
Oh, hey, c'est ma fille peut-être, Mila Jovovich? Non, elle est à l'école. Attends, blague à part, moi j'ai quand même eu Omar Sy dans une room sur Clubhouse, donc rien ne m'étonne.
J'attendais quand est-ce que tu allais placer le mot Clubhouse, donc on est à 13 minutes, bravo Laetitia.
Bon allez, breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat, et le tout sans langue de bois. Et cette semaine, c'est encore Adrien qui a envie de prendre la parole et il veut nous parler de La Redoute.
Oui, je veux te parler de La Redoute.
Mais d'abord, tu veux me parler de NFT.
Non, mais je veux te parler
des
deux.
Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Non, mais en fait, moi, comme je suis un gros geek, je me disais, quand est-ce que le NFT va se fusionner avec le e-commerce? Et je te le dis, NFT plus e-commerce égale INFT. J'adore ces acronymes, ces trucs et tout ça.
Wow.
Et donc, t'as un acteur, je vous ai mis le lien. Moi, ça me fait marrer, je le prends en 10e degré. Oui, il va se passer des choses. C'est juste que, tu vois, il faut.
Qui est cet acteur?
Alors, c'est un acteur, c'est Split, je crois, un truc comme ça, en plus le nom. Splitcore, ouais, c'est Split. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu vas sur leur site et tu reconnais tous les codes, nos codes de e-commerce B2B, de logiciel. Et donc, tu as plusieurs modules. T'as un module de PIM. Alors, il l'appelle pas PIM, mais il dit, gérer vos produits, etc. Tu as un module de feed marketplace. Pareil, trouve d'autres noms de traçabilité supply et de gestion de l'inventaire. Et tout ça en NFT. Donc, c'est dématérialisé. Enfin, on en a déjà parlé.
Je suis très jalouse de ne pas avoir découvert ça.
Donc, c'est en fait une plateforme. Ils n'ont pas du tout de clients parce qu'ils disent qu'ils sont intégrés sur Shopify, ils utilisent un démo store, etc. Mais j'ai trouvé ça très fun que le NFT, très vite, il se colle. Et puis, on peut imaginer qu'il y aurait, si ça prend, pourquoi pas, il y aurait des acteurs qui se spécialisent là-dedans et qui justement permettent à des personnes qui vont s'intéresser au NFT. Et d'ailleurs, en lisant quelques articles, je me suis dit, enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, alors pour les artistes, certes, mais également dans le gaming. Donc, quand il y aura des gros sous-sous qui vont commencer à se développer là-dedans, dans ce marché, on verra encore plus d'acteurs.
Allez, on passe à la Redoute.
Et la Redoute, ton site préféré. Eh bien, en fait, j'ai vu un article. Alors, le titre de l'article, c'est « Comment la Redoute a réintégré la cour des grands du commerce en ligne ». Donc, tu vois, je regarde ça. Et c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années, c'était assez difficile pour la Redoute. On s'en souvient tous pour leur mm-hmm. catalogue. Et il y a eu un plan social il y a quelques années.
Et leur site aussi, hein, ça n'a pas toujours été un site e-commerce, vous le voyez.
Bah, en fait, on les voit toujours comme les derniers de la classe. Enfin, ceux qui n'ont pas
alors
réussi à prendre le tournant, pardon. Et ce qu'on voit, enfin, l'article met en avant plusieurs choses. En 2020, ils ont fait plus 20%. Ils arrivent à faire, au global, ils ont réussi à atteindre les 1 milliard d'euros, donc grâce à la croissance du en ligne notamment. Ils ont gagné 1 million de nouveaux clients l'année dernière. Ils pensent à aller à l'international, on verra bien. Et ils parlent d'avoir automatisé en 2018 leur supply chain pour être plus compétitifs et améliorer tous leurs process. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans cet article ? La Redoute, ils sont complètement réinventés ou en tout cas modernisés et que maintenant, ils sont prêts à aller taper les gros. Moi, j'ai l'impression, mais j'aimerais bien avoir ton avis, que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard parce qu'il y a quand même un héritage et puis il y a quand même la marque, mais je sais pas trop comment ils peuvent, enfin, quelle est leur carte ou la place qu'ils peuvent avoir sur le marché.
Bah, je trouve qu'elle est énorme, hein. Enfin, peut-être que tu consommes pas sur la Redoute, mais moi en tout cas, j'ai jamais cessé de consommer sur la Redoute et vraiment j'ai suivi toute leur évolution. Donc aujourd'hui, la Redoute, c'est aussi une marketplace, c'est aussi un programme un peu à la Vinted où vous pouvez vendre des produits, ça s'appelle la reboucle, je crois. Oui, voilà.
Ah oui, c'est ça.
Voilà,
exactement,
vous avez ça.
Bien vu.
Il y a tout un pan outlet qui est toujours fourni. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre les soldes ou ces choses-là. Et puis surtout, il y a une stratégie de contenu qui est de folie sur la Redoute. Donc moi, mais depuis le début que Nathalie Bala a repris et qu'en plus, ils se sont à coquiner de superbes agences pour aller sur le digital. Mais moi, je suis méga fan. Et il ne faut pas oublier que la Redoute aussi, en tout cas pour la partie, comment on dit en français, maison, décoration, et tout, ils ont quand même des boutiques là où ils avaient tout fermé il y a déjà une dizaine d'années, ça réouvre et puis il y a aussi voilà ce que tu disais, le côté un peu la Redoute, ça fait un peu partie du patrimoine français du retail. On se souvient tous, je pense, des catalogues chez nos grands-parents.
Mais ça, c'est papa qui, enfin tu sais, c'est les boomers là qui ont ça.
Bah,
les
non,
jeunes, est-ce qu'ils
non,
ont vraiment cette
les
image?
Jeunes pour eux, c'est comme si c'était un Zalando et des choses comme ça. Et tu verras que dans pas longtemps, la Redoute fera des partenariats avec des Lena Situation, des McFly Carlito, des choses comme ça.
Ils vont faire des live streaming dans
mais
une
moi,
semaine.
Mais moi, je mets ma superbe marinière que j'ai achetée d'ailleurs sur la Redoute. Voilà, c'est une collab Balzac Paris. Et du coup, ouais, parce que du coup, j'en parle. Mais il y a aussi tout le pan des collabs avec des marques assez
fashion.
Ça y est, je suis une influenceuse. Je vous dis, vous voulez me demander tout, je vous dis, il y a pas de problème et je vous donne un code promo à la fin de l'émission. Bon, blague à part, vous avez aussi un peu comme sur d'autres marketplaces comme Zalando ou même Asos, un espace un peu premium. Où vous avez des marques un petit peu plus premium. Donc moi, mais vraiment, la Redoute, j'y crois à fond.
Okay.
Je mets toutes mes billes là-dedans.
On verra dans un an comment
Nathalie, ne me déçois pas, s'il te plaît.
Et on passe à la rubrique No Filter. C'est la rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux où les likes et l'argent et les bling-bling sont monnaie courante. Laetitia, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de TikTok et je vais vous parler de mon petit chouchou depuis quelques semaines, Carrefour. Alors, sachez-le, je n'aime pas Carrefour. Hein. J'ai déjà eu des crises d'angoisse de folie chez Carrefour.
Tu les adores.
Mais je sais pas, en ce moment, ils ont un renouveau. Je les aime bien. Et là, ils ont lancé un super challenge sur TikTok pour aider les jeunes étudiants qui sont dans une situation précaire. Et je vous invite vraiment à faire le challenge, à aller regarder déjà sur TikTok le challenge et à le faire. D'ailleurs, j'ai envie qu'avec Adrien, on le fasse, mais je ne sais pas s'il est très, très à l'aise. En gros, le challenge s'appelle Check du coup de Carrefour. Et vous voyez l'ensemble des salariés Carrefour qui font un mouvement comme ça et qui font un check du coup. Pardon, vous ne m'entendez plus. Et l'idée, c'est de faire une chaîne et puis qu'on atteigne un certain nombre de tonnes de...
Donc, c'est une check virtuelle.
C'est une
pas
chaîne
très
virtuelle,
COVID-free.
Voilà. Okay. Et plus il y aura de checks et de vidéos, et plus les tonnes de denrées alimentaires vont augmenter parce que tout ça est lié avec une plateforme associative. Et moi, je trouve l'idée très bien. Alors oui, c'est pas du e-commerce, mais c'est une belle initiative. En plus, c'est du digital. Voilà.
Ok, pourquoi ils donnent pas directement les fonds? Non, bah, je suis mauvaise. C'est très bien, c'est très très bien. Bravo Carrefour.
Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte surtout les prédictions d'Adrien.
Je fais aucune prédiction.
ma
prédiction, c'est de plus faire de prédictions.
Et nos analyses de l'époque. Allez, on monte dans la DeLorean, c'est parti. Et puis, on a reçu qui en avril 2020, enfin le 2 avril 2020 pour l'épisode 34.
Alors, on l'avait reçu de manière virtuelle. Enfin, on avait fait une petite capsule.
Et on a été déjà confinés.
On avait fait une petite capsule de routine confinement. Et c'était Ellie de Peplog, Ellie Ozanski qui nous avait fait une petite capsule. Alors, il y avait pas mal de choses il y a un an, le 2 avril dernier, 2 avril 2020. Ça y est, on était dans le confinement. On commençait à avoir des données qui ressortaient. Et puis, on commençait aussi à voir les premiers retailers qui commencent à mettre un genou par terre. Ça sentait pas très bon pour pas mal de magasins. On avait évoqué André par exemple, et puis également Orchestra. Alors Orchestra, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus, enfin maintenant là récemment, comment ils ont communiqué. Eh bien, ils ont explosé en ligne, explosé dans le bon sens, en tout cas ils ont fait une forte croissance. En un an, la part du e-commerce est passée de moins 5% à 10%, et ils prévoient de faire d'ici 3 ans 20% des ventes, soit 100 millions d'euros. On l'a dit beaucoup de fois, hein, l'e-commerce a pris, ça n'a pas couvert le gap de perte du retail physique, mais c'est super de voir que certaines enseignes en bénéficient parce qu'ils avaient un e-commerce et ça a accéléré la modernisation. J'ai trouvé ça doucement... Je suis d'humeur très taquine, je crois, aujourd'hui, ou très moqueuse, parce qu'ils sont revenus en arrière et ils sont brandés un truc qui veut être une nouveauté. Ils ont appelé ça le call and collect.
Ah oui, mais je t'avais partagé cette
news. Ouais,
je
ne
comprenais
abusé,
pas.
Bah,
on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Je te laisse expliquer, mais franchement.
Non, mais en fait, c'est avant d'avoir un site e-commerce, tu avais un site vitrine et que tu appelais pour acheter. Et là, c'est pareil, tu dois appeler pour acheter. Donc, on revient en arrière, mais j'adore le branding de call and collect. Quoi. Tu fais ton panier, tu achètes.
Voilà,
tu
achètes. Et en plus, alors, tu as un espèce de store locator. Donc, moi, je me dis, quand il y a un store locator, c'est pour c'est quand même un pas vers la modernité. Et en fait, tu dois appeler le magasin qui va dire oui, je vous confirme que c'est bien en stock. Allez, on prend rendez-vous et machin. Mais pourquoi, comment? Perte de temps inutile.
Après, ça pourra peut-être servir à 0,1% des personnes qui veulent ce truc-là.
Si ça existe, c'est qu'il y a un besoin.
Je comprends pas très. En tout cas, d'avoir
pas trop révolutionnaire, les gars.
Et d'avoir mis ça à call and collect. Bon, un peu bidon, je trouve. Ensuite, on avait parlé des réseaux sociaux qui explosent en période de confinement. On passait plus de temps sur nos téléphones. Café du Mytho, c'est le printemps qui annonçait très maladroitement vouloir cesser de payer l'ensemble de ses encours fournisseurs et partenaires. L'enseigne s'était fait retoquer par Bercy.
Ouais.
Et entre-temps, un an plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Ça date d'il y a 2-3 jours. Le printemps qui annonce qu'ils vont fermer 4 magasins, il y a 450 personnes qui vont être sur le carreau, ils vont perdre leur emploi, il y a eu des manifestations qui ont été faites par les employés. Il y a le printemps s'est détenu par un des fonds qataris qui ont mis en place un nouveau PDG en novembre dernier pour structurer un petit peu le groupe. Donc on croise les doigts pour eux, ça doit pas du tout être facile en ce moment pour le printemps malheureusement.
Le café d'or du mois. Le café d'or, je vous en parlais en introduction, eh bien, c'est une nouvelle rubrique. Avec Adrien, on a décidé de décerner en toute modestie une récompense à un acteur du e-commerce, une entreprise ou une personnalité, qui nous fait réagir positivement.
Et puis, il y a l'actualité aussi.
Ouais.
Donc on a beaucoup réfléchi sur ce mois-ci, au mois de mars, on a regardé un petit peu les actualités, on a mélangé, on a fait venir les gars là qui viennent contrôler.
Un huissier,
c'est ça, un huissier est venu contrôler.
Et Maître Nadjar,
avant de dire la marque,
on va peut-être
lister qu'est-ce qui a été fait peut-être, et comme ça les gens vont essayer peut-être de deviner. On va donner la réponse. Mais alors, un truc, c'était de mettre son catalogue sur YouTube en mars.
Le WhatsApp en magasin que j'ai testé.
Ouais, l'ouverture de 2000 points de vente e-commerce d'ici fin 2021, le rachat au Brésil d'un acteur e-commerce, le challenge TikTok que tu as évoqué, on parle bien sûr de
Carrefour Jeux Positifs.
Exactement, voilà. Exactement.
Non, blague à part, moi je vais revenir sur le fait que j'ai même pas la carte fidélité Carrefour.
Carte passe, non, c'est pas ça.
Non, c'est une carte fidélité. Non.
Ah, ok, ouais.
C'est le paiement, sa carte passe.
Ouais, ouais.
Bah, ça, c'est Carrefour Banque, okay. Ça. Tu mélanges tout. Non, en plus, je déteste y aller. J'ai déjà fait plein de crises d'angoisse dans ces grands magasins. Une fois, j'ai même laissé mon caddie et je suis partie. Et une autre fois, il y a même un monsieur qui est venu me réconforter tellement que j'étais pas bien. Bon.
On parle de toi ou de Carrefour, là?
Ouais.
Allez, donc Carrefour.
Non, mais... Carrefour. Du coup, pourquoi Carrefour? Bah, moi, je trouve que depuis un moment, déjà, hein, en Suisse, qu'ils font, ils sont rapprochés de plein d'acteurs et de plein de startups. Ils sont quand même à l'aune de l'innovation. Ils ont fait beaucoup de choses pendant, maintenant, le premier confinement, donc il y a déjà un an, et je trouve que vraiment ils sont assez moteurs dans la grande distribution pour pas mal de choses. Par exemple, les fiches produits, je trouve que ce sont pour moi les précurseurs de la fiche produit optimisée avec ce qu'on appelle du rich content, du contenu enrichi, avec de la vidéo, avec des recettes associées. Faut pas oublier qu'ils se sont à coquiner de start-up de la food assez bien technologiquement. Ils ont fait des partenariats notamment avec Alchemix. Ils sont, je suis pas certaine, mais en tout cas, il y a quand même une bonne partie du catalogue qui est sur Yuka. Vous pouvez aussi commander depuis un assistant virtuel, enfin un Alexa ou un Google. Voilà. Du coup, ouais, j'aime bien. Et puis, il y a aussi...
Tu critiques Carrefour, mais tu fais penser au serial killer qui a un truc, un gros tableau.
J'ai un tableau
avec
je sais
tout ce que fait Carrefour et tout ça. Et en fait, en
secret, c'est une idée de décor. On pourrait faire ça. C'est à peu près ça. Voilà, vous avez.
En fait, ils ont fait plein de trucs.
Il y a plein de choses. Et c'est plutôt positif.
Voilà, en gros, ils font plein de trucs, mais notamment en mars. Chaque semaine, on a parlé de Carrefour. Alors que ça fait 2 ans qu'on fait le podcast et on en a très rarement parlé. Enfin, de temps en temps, quand il y avait des choses. Donc là, vraiment, en mars, ils ont fait plein d'initiatives. Et puis, c'était pas que de la com. Enfin, il y avait de la com, certes, mais c'était plein d'initiatives différentes. Et pour un grand groupe comme ça, d'innover ou de faire des choses, c'est vraiment super. Et on peut pas s'empêcher de les comparer à Walmart qui a investi énormément des milliards pour essayer de concurrencer Amazon ou en tout cas pour se mettre à niveau, pour même dépasser sur certaines choses. Donc j'espère que Carrefour va continuer à nous surprendre. C'est plutôt cool tout ce qui se passe.
Big up Carrefour, café d'or du mois.
Bravo Carrefour.
Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité. Et cette semaine, c'est Samson Lewin de Blue Lemon qui va nous parler de l'univers, de l'écosystème Tech Martech e-commerce en Israël. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Samson de l'agence Blue Lemon. Hello Samson.
Salut.
Bonjour Samson.
Comment ça va Samson?
Ça va très bien et vous?
Ça va bien.
Nickel.
Merci. Samson, tu nous viens tout droit d'Israël. Tu nous fais l'honneur d'être ici en France rien que pour nous, pour le podcast.
Exactement. Pas que pour vous, mais en partie.
Si, que pour nous. Bon Samson, dis-nous, qu'est-ce que tu fais en Israël? Qui tu es? Pourquoi tu reviens en France, si ça peut nous regarder? Et puis après, on parlera un petit peu plus d'e-commerce. Mais d'abord, toi et ton job.
Alors, je m'appelle Samson Lewin. J'habite en Israël depuis 3 ans et demi maintenant. Moi, j'ai un background un peu plus marketing stratégie. J'ai bossé beaucoup dans la tech. J'étais chez Google ici, chez Pinterest. Je suis parti en Israël, j'ai bossé chez SimilarWeb, qui est une boîte de la tech. Puis ensuite, dans une agence, pendant 2 ans, j'étais directeur marketing spécialisé dans le marketing pour la tech. Donc du coup, la tech, ça me connaît. Et il y a pas très longtemps de ça, il y a presque un an maintenant, au moment du corona, j'ai monté Blue Lemon avec 2 amis qui sont en France, du coup. Et moi, j'étais en Israël, d'où la raison de ma présence au départ. On a monté une boîte directement sur 2 pays, à cheval sur 2 pays, avec du coup, comme valeur qu'on peut attaquer 2 marchés et qu'on apporte un peu d'intelligence de chacun de ces 2 pays et qu'on les fait partager.
Du coup, Samson, nous, ce qu'on voudrait évoquer avec toi, c'est l'e-commerce, que tu nous dépeignes un petit peu l'écosystème e-commerce en Israël.
Avec grand plaisir. Et alors, grosso modo, il y a pas du tout, ou si ce n'est très très peu de retailers aujourd'hui en Israël, et donc du coup de e-commerce au global, en tout cas en B2C. Je peux en citer 2 comme ça, qui sont dans les cosmétiques, qui commencent à prendre une certaine ampleur. Il y aura Sabonne, qui s'est fait racheter par le groupe Rocher il y a 2 ans maintenant, qui en fait même sont à la ramasse en e-commerce, qui sont en train de maintenant prendre le virage e-commerce. Ne dites pas que j'ai dit ça.
On leur enverra pas.
Mais c'est vrai qu'ils ferment toutes leurs boutiques, ceci dit.
Ils ferment toutes leurs boutiques et ils sont en train de prendre le virage pour le coup. En ce moment, ils viennent de composer justement, là, il y a un mois de ça, ils ont composé ce qu'ils ont appelé une squad digitale où ils ont recruté des personnes spécifiquement pour développer leur e-commerce dans le monde. Il y a Laline aussi qui est un concurrent de Sabonne. Mais après, en fait, en gros, vu que c'est un tout petit marché, ils n'ont pas vraiment développé d'offres B2C et donc du coup, ils se sont pas forcément exportés. Du coup, Enfin, de rajouter un truc, de manière générale, en fait, si tu veux t'implanter au Moyen-Orient, tu vas toujours avoir un choix. Soit tu décides d'attaquer, en fait, vu qu'il y a une situation un peu complexe, c'est plus le cas maintenant, mais c'est soit tu vas t'implanter dans la péninsule arabique, à Dubaï, soit tu vas t'implanter en Israël. Ça va être compliqué d'avoir les deux. Et donc, du coup, en général, les gens vont choisir la péninsule parce que il y a un plus gros marché et il y a plus d'argent.
Mmh. Du coup, il y a peu de retailers, ou en tout cas le marché B2C n'est pas très présent. Il y a un écosystème, cela dit, il y a plein de boîtes de l'e-commerce. Toi qui connais bien ça, tu avais un petit peu fait un petit travail d'overview du marché israélien, c'est ça ? Qu'est-ce que tu avais pu noter ?
Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a peu de retailers parce qu'il n'y a pas de marché B2C. En revanche, pour le coup, c'est un marché qui est né pour l'exportation et surtout du service et surtout de la prestation intellectuelle et notamment du SaaS et de la tech. Et donc du coup, dans ce cadre-là, il y a énormément de boîtes de services pour les e-commerçants qui sont développées dans différents secteurs. Et alors du coup, je peux t'en lister quelques-uns. Ouais. Tu auras par exemple la construction de sites, des services pour construire des sites internet. Tu auras des services d'optimisation de ton site, de l'expérience utilisateur, des choses autour de la cybersécurité, de la prévention de fraude, autour de l'orchestration et le management de tes plateformes et de tes commandes aussi en tant qu'e-commerçant, d'études concurrentielles. Autour du paiement aussi, notamment prestataire de paiement, tu en as beaucoup. Et après, tu as d'autres typologies autour du B2B, par exemple. Alors, je pourrais en parler un peu plus tard, mais des e-commerçants, des solutions pour le B2B en e-commerce.
Donc, si on reprend sur la première catégorie, parce qu'en fait, on va se rendre compte que c'est des solutions qu'on connaît. On ne sait peut-être pas qu'elles viennent d'Israël. D'ailleurs, il y en a un paquet qui se sont fait racheter. Qu'est-ce qu'on avait comme solution ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution plutôt dans la construction de sites ? C'était ça la première catégorie ?
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, je peux t'en citer un. Que tout le monde connaît, c'est Wix.
Ouais.
Wix, c'est une boîte qui est peut-être une quinzaine d'années maintenant, qui ont fait leur IPO il y a pas très longtemps, moins d'un an, et qui sont en train d'exploser. Ils recrutent honnêtement, je connais pas une.
Et d'ailleurs, c'est marrant, tu la mets dans la catégorie construction de site. Moi, je le considérais comme une plateforme e-commerce à part entière, parce qu'ils ont développé la partie e-commerce. Wix Commerce, c'est quand même connu. Trouves pas ?
Mais à la base, pour moi, c'est pas
c'est
trop
CMS.
E-commerce. Plutôt un CMS.
Moi, je trouve qu'ils ont bien fait le virage.
En l'utilisant, je découvre qu'il y a des trucs.
C'est marrant comment la manière dont ils se structurent, c'est hyper intéressant. Ils ont des mini-boîtes à l'intérieur de la boîte. En fait, ils créent des squads et ils ont à chaque fois un produit.
Des cohortes. C'est le mot à la mode en ce moment. Il faut utiliser le mot cohorte partout.
Exactement. Et donc, ils ont Wix Hotel, Wix Commerce, Wix Booking, Wix Art Store.
Wix Beauty. Yeah.
Wix Beauty. Et en fait, dedans, tu auras un product designer, un product manager, un développeur, un analyste. Et en fait, en gros, ils font des mini startups à chaque fois et ils vont aller bootstrapper à chaque fois un nouveau produit pour aller casser le marché.
Mais je trouve intéressant parce que pour le coup, Wix, c'est très facile à utiliser. Et quand j'ai l'impression quand même que souvent, le besoin de quelqu'un qui se lance, il est assez commun. Tu prends les best practices de ce qui existe. T'as pas des besoins de ouf. Et si t'as pas un catalogue de fou furieux, ça fait le taf, quoi. Quand t'as pas énormément de produits en deux secondes, c'est du no-code. En plus, faut peut-être le préciser. C'est très facile à mettre en place, quoi. Ça, c'est sur la construction de sites. En deuxième, tu avais noté quoi?
Optimisation de site internet.
Alors là, qu'est-ce qu'on a?
Alors le gros du marché israélien, c'est à l'époque c'était Clicktail, qu'on ne connaît plus maintenant parce qu'ils sont fait racheter par Content Square il y a 2 ans, il me semble. Et en gros c'est un concurrent direct. Alors pas tout à fait les mêmes cibles, ils ont plutôt sur des cibles grands comptes parce qu'ils ont des analystes en interne qui vont faire les optimisations. Mais ça va être un concurrent de comment s'appelle cette plateforme qui permet de faire de heat mapping.
Hotjar.
Hotjar, exactement. C'est un concurrent direct de Hotjar, sauf que Hotjar eux sont plutôt sur des petites boîtes en gros. Parce qu'ils ont une solution gratuite, alors que du coup c'était un truc un peu plus solide, Clicktail, donc ils sont fait acheter il y a pas très longtemps. T'as une autre boîte par exemple qui s'appelle Quantum Metric, qui est un truc américano-israélien, qui eux ont développé une solution où en fait t'es capable de mesurer l'impact business d'une certaine optimisation de ton site. Donc par exemple, ça permet de savoir de prioriser en disant est-ce que je vais modifier ce bouton là ou alors mettre à jour cette page là, et t'es capable de savoir en fait les économies business que tu vas faire sur ton site.
C'est avec de l'AB test, ils font des tests et puis ils te mesurent la performance, c'est ça?
Ils font des tests, ils ont des tonnes de data. En fait, ils vont récupérer aussi des data de
différentes sources.
Ouais, de différentes sources pour pouvoir en fait, ils ont des algos derrière qui permettent de te faire des recommandations grosso modo par rapport à l'expérience globale de plein de sites en gros qu'ils ont été récupérés, plus par rapport à ton site à toi.
Ok, et toutes ces, là, les boîtes que tu cites, elles ont des références. Bah, la première, elle est très connue. La deuxième, c'est faire acheter. Celle-ci, par exemple, ils ont des clients en France. C'est-à-dire que quand tu es une boîte israélienne, tu penses international tout de suite. Je crois que quand on en discutait avant l'enregistrement, c'est un des réflexes.
Non, non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comme ça, je ne saurais pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que malheureusement, le marché français, c'est jamais la priorité pour ces boîtes-là. Pourquoi ? Parce que, un, il y a culturellement, il y a beaucoup de liens entre Israël et les États-Unis. Et aussi parce que c'est beaucoup plus simple d'aller marketer d'aller attaquer des pays anglophones.
C'est plus rentable de se faire acheter par les États-Unis que par la France.
Mais en fait, dans un premier temps, ce que font ces boîtes-là, c'est qu'ils vont attaquer le marché américain. Et ensuite, les anglophones. Donc d'abord US, après ils vont faire UK. Et après, anglophones, en général, tu comptes dedans les Nordiques et l'Allemagne. Et après, les autres pays européens, la France, l'Italie et l'Espagne, en général, ils le mettent de côté. On verra plus tard parce que ça nécessite un travail de traduction. Il faut des équipes locales parce que les gens ne parlent pas anglais.
Mais c'est ce que font les boîtes américaines aussi. Enfin, c'est compréhensible. Par contre, tu n'as pas parlé d'Asie. Ce n'est pas une strate des boîtes d'aller en Asie. En Chine ou en Inde, c'est des marchés monstrueux, mais c'est des marchés difficiles pour eux.
Allez, ils ont de plus en plus de personnes qui s'occupent d'aller faire le pont avec les marchés asiatiques, mais c'est des marchés qui sont de manière générale hyper compliqué. Difficilement pénétrable
si t'es pas localement
implémenté localement ou si t'as pas des contacts ou enfin c'est vous savez.
Moi Samson, j'ai quand même une question parce que j'ai l'impression que ça représente énormément de sociétés pour un si petit pays.
Ouais.
les ressources humaines, ça recrute localement ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour travailler dans la Startup Nation
israélienne? Ça recrute localement. Israël, en fait, c'est le deuxième plus gros récepteur de fonds d'investissement dans le monde après les États-Unis, malgré la taille du pays. C'est aussi le pays avec le premier plus gros de patents per capita aussi au monde. Donc il y a beaucoup d'innovation. Et pour répondre à ta question, en fait, ils recrutent énormément localement. Après, ce qui se passe, c'est qu'en marketing en général, souvent quand les boîtes atteignent une certaine taille, ils vont aux États-Unis, donc ils vont recruter aux US pour les marketing, les sales, des boîtes comme ça. Et pour les ingénieurs, ils recrutent exclusivement en Israël. Et en fait, il manque aujourd'hui, on dit 15 000 développeurs en Israël. Il y a une vraie pénurie de développeurs. Ce qui fait qu'en fait, les développeurs en Israël, et les data scientists notamment, sont les personnes les mieux payées au monde.
Ah oui. Il y a une pénurie partout, mais on peut imaginer qu'en Israël, encore plus.
Sur un petit territoire et sur une dynamique comme ça.
Ouais. Moi, c'est vraiment ma petite histoire perso, mais j'ai énormément d'avis de copains en Israël qui sont data scientists, qui ont quitté la France parce que t'es payé trois fois plus. T'as trois fois ton salaire en Israël par rapport à ce que tu gagnes en France.
Il faut juste parler anglais et français et puis tu peux trouver du taf.
Exactement, exactement. T'as pas besoin de parler hébreu parce que dans ces boîtes-là, en général, tout le monde parle anglais. Et donc, du coup, t'as des salaires qui sont indécents, vraiment.
Samson, il y a un ou deux épisodes, je crois qu'on a levé... on a levé pas du tout.
On a rien levé, Laetitia, encore. Mais bientôt. Startup Nation Israélienne.
Il y a un ou deux épisodes, on avait évoqué la levée de fonds de Bring, qui fait de la logistique. Je crois que c'est une société israélienne.
Ouais.
Vas-y, dis-nous en plus, fais-nous rêver.
C'est une société qui a levé des fonds il n'y a pas très longtemps. Alors, combien? Autour de 40 millions, il me semble, il y a un peu plus d'un mois, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est une boîte qui fait de la logistique au service du e-commerce. Et en fait, eux, ils se définissent comme une plateforme d'orchestration. Donc en fait, c'est pas un outil logistique, c'est un outil qui permet de faire communiquer tes différents outils d'orchestration, enfin des différents outils logistiques ensemble. Donc en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu es sur des petites scales, des petites tailles, bah en fait ton Deliveroo va te suffire. Mais quand tu commences à avoir une centaine, milliers de restaurants, bah en fait tout d'un coup, t'as ta plateforme de order management, ta plateforme de shipment, ta plateforme de plein de choses différentes. En fait, il faut les faire travailler ensemble. Et en fait, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. Et en fait, Bring, eux, ont créé cette espèce de plaque tournante qui permet de plugger tous ces différents outils ensemble et les faire fonctionner de manière hyper, hyper smooth, grosso modo.
Et Bring Together, quoi.
Et Bring, exactement. 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 Bring Together, c'est ça l'idée.
Alors, du coup, c'est notre petite surprise, Samson.
Ok.
Vraiment designé pour toi. Et du coup, c'est un petit jeu qui s'appelle Tu préfères. De manière très très vite, tu ne réfléchis pas, on va te poser une question. Tu préfères ça ou ça? Et surtout, tu ne nous dis pas pourquoi.
On le fait pendant nos entretiens,
non? Mais non.
Ouais, vous faites
nos entretiens d'embauche.
Et des fois, tu mets des petites questions un peu pièges au milieu.
On met des questions pièges et on met... Ouais,
puis on a aussi.
Mais comme nous.
Ok, on a disé le même truc. Bon, voilà,
tu nous partageras les tiennes si on a le temps. Allez, on y va, c'est parti.
C'est toi qui briefes le client ou c'est le client qui te briefe?
C'est moi qui briefe le client.
Snap ou Insta?
Insta.
Amazon ou AliExpress ?
Amazon.
Du coup, bah, Silicon Valley ou j'allais dire French Connection, mais non, Startup Nation.
Startup Nation.
Retour en magasin ou retour par courrier ?
Et retour en magasin.
Netflix ou Amazon Prime ?
Netflix.
Woman in Tech ou Woman in the Kitchen ?
Woman in Tech.
Bonne réponse. Google Ads ou Facebook Ads ?
Et Google Ads.
Navigation sur mobile ou navigation sur desktop ?
Et mobile.
Nightclub ou Clubhouse ?
Nightclub.
Merci.
Mais,
ouais,
mais toi, c'est rouvert, donc tu peux.
Alors, brief, le client, c'est quelque chose qui est important là, quand tu quand t'es en agence, d'être force de proposition, de driver les discussions.
Ouais, alors nous, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est, on avait vraiment essayé de se positionner. C'est qu'on dit, alors excusez-moi, je vais dire en hébreu, mais on dit en hébreu Begova et Naïm, ça veut dire au niveau des yeux. Et c'est vraiment hyper important pour nous qu'il n'y ait pas de relation de hiérarchie entre les différentes personnes, que ça soit avec les clients ou même en interne. Chacun, en fait, a ce même niveau. Et donc, du coup, t'es dans une relation où tu peux permettre, nous, on se permet en tout cas de dire aux clients, non, mais tu dis n'importe quoi, mec. Mmh. Et d'être dans ces relations-là, parce que c'est comme ça que t'avances.
Est-ce que les clients qui sont en Israël versus les clients qui sont en France, parce que vous bossez avec les deux, ils sont peut-être plus à même de comprendre ce discours en Israël, ils sont, parce qu'ils comprennent que c'est compétitif, il faut recevoir le feedback. Et en France, on n'aime pas trop le feedback. Enfin, tu vois, dire non à quelqu'un, il chie dessus et puis il va aller pleurer dans un coin, ou alors il va pas l'accepter. Tu vois une différence culturelle ou pas trop?
Énorme. Et je pense que d'ailleurs,
ça cause le succès ou pas d'ailleurs, cette mentalité. Ouais.
Ouais, mais je pense que ce comportement qu'on a, c'est directement infusé de la culture israélienne, où en fait, il y a ce truc, je me souviens qu'on avait pris ça en école de commerce, une espèce de ligne, dans des cours de communication internationale, de ligne en gros, de relation directe versus relation indirecte. D'un côté, à l'extrême, t'avais le Japon, et l'autre extrême, t'avais Israël. Et en gros, c'est ça. T'es très, très frontal. Tu dis les choses directement, t'as pas de filtre.
Ça peut paraître violent aussi parfois.
C'est violent comme communication, mais c'est super constructif. Efficace et constructif, ouais.
Et souvent, tu sais, pour se moquer des Américains, enfin, moi, ça fait 15 ans que je bosse pour des boîtes américaines, tout est nice, amazing, great, et c'est dur d'avoir le feedback. Maintenant, ça commence à changer, ou quand tu réussis parler. Mais tu sais, le premier feedback, c'est amazing, et ça aide pas à grandir, ou c'est assez froid, parce que finalement, c'est creux, quoi. Donc, écoute, merci pour ce feedback.
Merci, Samson. Du coup, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu présages pour l'univers e-commerce? On a bien compris, c'était de la tech, des martech en Israël. Tu penses qu'il y aura encore plein de levées de fonds, plein de rachats, plein
ça
de...
Ça va pas s'arrêter, ouais.
Voilà, on est sur une bonne dynamique. Comme ça, tu sens que qui va se faire racheter ou qui va faire son IPO, là, très prochainement?
Bring, par exemple, je le sens arriver. Il y a dans pas très longtemps, après t'as des boîtes Riskified dans la fraude, dans la fraude. Va pas tarder aussi, ouais, à mon avis. L'IPO, je pense pas qu'ils vont se faire racheter. Après, moi, c'est ma petite connaissance du marché, je suis pas...
Ouais, il y a Globally il y a quelques semaines qui a annoncé qu'il préparait ça, acteur du cross-border. Donc pareil, IPO aux États-Unis. Donc entre les rachats, les IPO, on va continuer à entendre parler, quoi.
Ouais, si vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à les mettre dans les VC en Israël, parce que vous avez une grande chance de faire pactole.
Samson, comment on fait pour en savoir plus ou pour te contacter et pour entrer en relation avec toi?
Ouais, et ben vous pouvez m'écrire sur Samson, Samson, @bluelemon.io.
On va mettre le lien directement dans les notes. Et puis, on te remercie. On se dit à très bientôt.
À bientôt, Samson. Merci.
Merci. À très bientôt.
À bientôt. Reco micro, micro reco. Au micro, on fait notre reco, illico presto. Rien qu'à l'état reco.
Ma reco, c'est un bouquin.
Oui. Allez, première fois.
Je marchais dans la rue, il y avait un truc par terre, je l'ai ramassé.
En fait, je suis
retourné dans ma démarche de se dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément, qui commencent l'e-commerce ou qui n'ont pas une maturité ou qui sont juste curieuses d'apprendre ce secteur. Et je voulais me dire s'il y avait un ou deux ou trois bouquins que je pourrais conseiller. Alors, c'est pas le bouquin qui a changé ma vie, il y en a un autre que je vous garde pour une prochaine fois, c'est Don't Make Me Think. Et c'est un bouquin qui a été mis à jour deux fois, je crois. Moi, je l'ai lu à l'époque, c'est la version de 2004, et je crois qu'il y a une version 2016 mise à jour. Il est très simple à lire, il est très court, avec très illustré, et ça t'explique un petit peu l'ergonomie des sites, comment est-ce que penser l'utilisabilité des sites, l'accessibilité, etc. C'est des concepts, tu vas me dire, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, je suis pas dans ces domaines-là. Tout le monde devrait le lire. Ça fait partie déjà de la culture générale, mais en plus, quand tu travailles dans l'e-commerce, savoir, je te donne juste un truc, on ne lit pas les informations, on les scanne. Et c'est que des concepts comme ça, avec, en te montrant, voilà une page web qui est avec trop dense ou trop de mots, voilà une autre qui est plus épurée. Donc c'est des choses qui sont... c'est un livre qui donne des conseils très très pratiques, très simples à lire, et je vous recommande vraiment de l'acheter. Ça coûte, je sais pas, 15 balles sûrement. Je vous ai mis le lien sur la FNAC, et lisez-le, ça se dévore, quoi. Et après, vous pourrez l'offrir. Laetitia, toi, ta reco de la semaine, tu lis le chat, il y a des blagues, c'est ça?
Oui, la tête de Laetitia quand Adrien a dit le mot bouquin, il faut en faire un gif. Oui.
Alors Laetitia, quel est ton...
du coup, je retombe dans mes clichés. Hein. Moi, je vais vous parler de World on TV. Et déjà, je vais vous remercier Greg. Greg, c'est un ami. Il est déjà dans WhatsApp. Et Greg, c'est un fou de fashion, machin. Et il m'envoie ce lien. Il me dit, Laetitia, tu connais? J'étais déçue de ne pas connaître, mais j'étais ravie qu'il me partage ce lien. Donc, World on TV. Si vous avez toujours rêvé de savoir ce que porte Kim Kardashian ou alors Lily Collins dans Emily in Paris ou alors même Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, vous allez sur ce site et vous cherchez la série qui vous intéresse. Et là, le site vous retrouve exactement, ou alors un dupe du vêtement porté par l'acteur, et puis ça vous redirige vers un site e-commerce. Alors j'ai testé, c'est souvent les mêmes sites e-commerce, souvent des sites nord-américains, mais du coup moi j'étais vraiment en extase devant ce site.
Ils prennent un épisode particulier sur chaque épisode, ils te disent comment il est habillé?
Non, en fait, t'as un catalogue, et puis là, t'as par exemple, je sais pas moi, Lily Collins dans Emily in Paris, tu choisis une image, et puis si ça t'intéresse, tu cliques et ça te redirige vers le site marchand.
Et Greg, comment il est tombé dessus?
Avec Greg, c'est un foot fashion, hein, donc
okay, dans sa veille,
je pense
ça,
qu'il a dû vouloir s'habiller comme quelqu'un dans une de ses séries, peut-être dans Narcos, et il s'est dit, tiens, je voudrais bien la chemise de... Voilà. Panier surprise. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on rigole, on s'amuse. Adrien est parfois le maître du jeu, mais là, ça va être moi. N'hésitez pas à vous prendre
moi,
et à participer de votre côté.
Laetitia, le pouvoir, on peut faire un podcast là-dessus.
Woman power. Allez, on y va, t'es parti Adrien?
Vas-y.
Ne regarde pas mon écran,
je
s'il
ne
te plaît.
Pas ton
merci,
écran.
On est parti. Si vous l'avez, vous répondez dans le chat.
Ou chez vous, vous criez.
Voilà,
quand vous
criez.
Vous faites votre sport ou
vous
faites
la cuisine.
Et
bientôt, vous pourrez gagner des choses. Parce qu'on est des gens hyper généreux. Marque de mode française créée en 2013. Son business model est fondé sur de la vente en ligne d'abord, qui représente 92% des ventes, puis en boutique ensuite. Son business model repose essentiellement sur des collections de prêt-à-porter et accessoires féminins en quantité limitée.
Comment tu veux que je connaisse?
Véritable okay. DNVB, son succès repose sur une fanbase immense. Copiée par la fast fashion, la marque porte le nom d'un grand peintre impressionniste, lui-même reproduit. Voilà, c'est là, tu
oui,
sais
bah
pas.
Ouais, bah non, j'en sais rien.
D'accord.
Donc j'ai perdu, bravo.
Il a perdu. Et du coup,
je suis le seul à ne pas le savoir.
Je lis. Et c'était Cézanne.
Ah bah oui, bien sûr.
Bien sûr, Cézanne, quantité illimitée, fanbase, DNVB 100%, et puis le peintre, Cézanne, impressionniste.
J'ai aucune excuse, je suis en contact avec eux dans le cadre de ma... Enfin bon, bref.
Oui, t'as toujours voilà. été en contact avec eux toute
Exactement.
Ta vie, en fait. Hein.
Non, en plus, dans le cadre du business, je te jure, ça fait 2-3 ans que je suis en contact avec eux, et donc je suis... Ouais, ok,
bon, là, celle-ci, si tu l'as pas, Adrien, ça va pas.
Mais là, tu fais ça pour me ridiculiser, mais c'est
mais
pas
du okay. tout, mais non, okay. là c'est obligé.
Tu dois faire des trucs
Franchement,
hyper
Adrien,
simples.
Si
un
là,
moteur
tu l'as
de recherche
pas,
populaire
non,
en France.
Sérieusement,
vas-y,
si
vas-y,
tu l'as.
Vas-y.
Et quoi, toi, tu me parles de je sais pas qui et...
Ok, vas-y.
On y va,
vas-y.
Allez. Fondée en 2012, cette marque américaine d'équipement indoor et outdoor a été propulsée sur Kickstarter en 2013. La marque totalise 2,3 millions d'abonnés sur Insta, Facebook, Twitter et a concentré ses campagnes marketing sur des micro-influenceurs. Pour rappel, micro-influenceurs, c'est moins de 50 000 abonnés. Son produit phare est un vélo d'appartement connecté.
Ah, ok, je l'ai.
Couplé à un
merci.
Abonnement d'entraînement virtuel.
Ok, Peloton.
Voilà.
Bravo, merci beaucoup, ta marque fétiche.
Exactement, après Cézanne. Disponible aux USA, au UK, en Allemagne, au Canada, le prix moyen d'un vélo est de 2 000 $.
Avec un abonnement derrière.
Avec un abonnement derrière. Voilà, donc si vous voulez me faire un cadeau, moi je veux un peu un Peloton. Bon, t'as un autre jeu toi?
Ouais, j'ai un jeu. Est-ce que tu sais ce que c'est Ordre Alphabetics?
C'est de l'ordre alphabétique, mais version
non.
Astérix.
Alors, dans Astérix, c'est un personnage, et c'est un personnage, c'est le vendeur de poissons, c'est le poissonnier. Et
okay.
en fait, je te l'ai pris parce que je t'ai fait un petit poisson d'avril. Et donc, t'étais pas au courant. Dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, dans toutes les news, il y a une news que j'ai complètement inventée, qui est bidonnée. Ce sera le petit poisson d'avril. À ton avis, c'est laquelle?
Ah, je sais. Vas-y, remonte. C'est le truc où je me suis limite extasiée NFT, là.
Non.
Oh non!
Je te donne une dernière chance, et puis ensuite, je donnerai la réponse. Et pareil pour ceux
c'est
qui sont...
C'est Trustpilot?
Non. Non. c'est la news what the fuck, ou enfin, pardon, c'est pas la news what the fuck, excusez-moi.
Ah, c'est le chinois ?
Non. Donc la news, le poisson d'avril, et je suis pas un grand fan des poissons d'avril, c'est Clubhouse qui teste le voice AI commerce. J'ai mis tous les bullshit words dans le même truc.
Sur ouais, mais ça aurait été plausible.
Ça aurait pu être possible, ouais, mais comme ils ont aucun business model et qu'on sait pas et que c'est une hype, et puis tu sais que j'aime pas trop, enfin, c'est pas que j'aime pas trop, je m'en fiche, mais ça me fait marrer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste le mec le frustré qui gratte à la porte. Quand est-ce que je peux entrer ? Laissez-moi entrer. Donc ils feront des trucs, mais même en réfléchissant, je me disais comment ils peuvent faire de l'e-commerce. Mais moi, tu sais, mon obsession, c'est l'e-commerce. Juste avec de la voix, vu qu'il n'y a pas de texte, etc., je suis curieux de voir comment ils pourront faire. Donc, j'aurais peut-être donné un.
Il y a du texte en plus.
Il y a du texte, tu peux chatter. Tu peux envoyer des trucs.
Tu peux pas chatter, mais t'as ton profil que tu peux updater en live pendant. Bon. Anyway.
En tout cas, voilà, c'était la petite news qui n'existait pas.
Allez, merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédecommerce.fr. Si vous êtes détenteur d'un appareil iOS, allez sur Apple Podcasts. Laissez-nous des petits commentaires, des petites étoiles. Même quand c'est pas bien, vous nous le dites.
Et si vous êtes sur Android, continuez à être intelligent et pas vous faire moutonner à aller sur du Apple.
Bon, enfin, cette semaine, Adrien m'a dit j'en ai marre de mon téléphone. Peut-être que je prends un appel.
Tu balances tout. Franchement, t'abuses.
Parce que les gars, on a marre d'être exclus de la base.
Non. Le setup, la technique, il devient de plus en plus compliqué à gérer. Et c'est bon, bref. Likez la page LinkedIn. C'est peut-être le call to action. J'aimerais bien qu'on fasse. Ouais. On est à 1200, donc c'est plutôt cool.
Et attendez, big news, il y a quand même le big boss d'Amazon France qui nous suit dessus. Voilà, moi je suis trop fière. Je suis trop passionnée.
Et venez sur le groupe WhatsApp, on est détendu, on se marre bien et puis on parle d'e-commerce entre nous, donc c'est plutôt cool. À plus tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir les
filles. À bientôt, salut.
Mes mots. J'ai pas compris.
Pour un poisson clown, il est pas si drôle que ça.